fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Forum de Studio Kalangu, votre rendez-vous quotidien de débat avec des personnes ressources qui viennent éclairer sur plusieurs sujets d'actualité ou de société. Aujourd'hui, nous parlerons de l'utilité de la philosophie et les contenus de son enseignement au lycée. Contrairement aux autres matières, la philosophie constitue en effet la seule qui n'est enseignée qu'à partir des classes de première dans les programmes scolaires de l'enseignement général au Niger. Quand on se réfère à son étymologie, elle signifie tout simplement l'amour de la sagesse, mais la philosophie reste encore de nos jours parmi les matières les plus contestées partout où elle est enseignée. Chez certains littéraires, notamment pour les élèves candidats au bac série littéraire A4, elle est souvent considérée comme étant une matière qui favorise l'échec. Pour d'autres encore, et particulièrement du côté de ceux qui ne l'ont jamais découverte à l'école, c'est tout un tas de préjugés que l'on entretient autour de la philosophie, une matière certes obligatoire, mais que nombre d'élèves ont souvent des difficultés à suivre, bien qu'on en trouve de plus en plus de grands passionnés. Des personnes qui admettent qu'au cœur de toutes les questions philosophiques, on y trouve un fondement légitime et fondamental. Et pourtant, la philosophie semble invitée à des questionnements qui sont censés intéresser l'être pensant, autrui et toute la société. Dans la première partie de ce forum, nous verrons d'abord ce que c'est la philosophie et son utilité. Et dans la deuxième partie, il sera question de l'intérêt que revêt l'enseignement de la philosophie de nos jours. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Loli Abdou Limam. Il est professeur de philosophie au lycée. Il est par ailleurs inspecteur pédagogique de philosophie au titre de la région de Niamey. Monsieur Loli Abdou Limam, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Ligi.
Nous avons notre deuxième invité qui est Monsieur Ousseini Salatou, homme politique. Il est également philosophe. Il enseigne donc également la philosophie au lycée. Monsieur Ousseini Salatou, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Digi.
À la modération de ce forum, je suis Michel Digi. Pour commencer, Monsieur Loli Abdou Limam, la philosophie, qu'est-ce que c'est?
Bien, merci, Monsieur Digi. À la différence de tous les autres domaines du savoir, ou quand vous posez la question à un spécialiste, il est vraiment à l'aise pour définir son domaine. En philosophie, ce n'est pas tellement le cas. Non pas que la philosophie n'a pas de définition. Vous venez tout de suite d'en rappeler une, bien sûr. Mais c'est que cette définition n'est jamais achevée. Elle est toujours à refaire. En fait, la philosophie doit se redéfinir perpétuellement, notamment avec l'évolution des connaissances. C'est ça un peu donc la difficulté pour pouvoir donner une définition qui est définitive. Voilà un peu. Le sens étymologique, c'est ce que vous rappelez là. Philosophie vient de philos, philaïne, qui veut dire amour et ami, et puis sagesse qui veut dire sophia, sophia qui veut dire sagesse. Donc la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, ou le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. Effectivement, ce sens, comme on le sait, remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et pourquoi on ne garde pas ce sens-là, n'est-ce pas, pour le galvauder tout le temps? C'est parce que justement, il n'est plus tellement pertinent aujourd'hui. Parce que bon, quand cette définition a été donnée par Pythagore, le mot sagesse avait un sens bien précis. Il signifiait connaissance, ou plus exactement connaissance des choses divines et humaines. Or, aujourd'hui, beaucoup de disciplines qui se sont détachées de la philosophie pour se constituer en science procurent la connaissance et donc l'amour de la sagesse. Donc, cette ancienne définition n'est plus pertinente parce qu'elle ne s'applique plus à la seule philosophie. Je pense que vous-même, M. Digi, dans votre domaine, le journalisme, vous avez besoin de sagesse. Le commerçant a besoin de sagesse, etc. C'est pour ça que donc elle ne satisfait plus tout à fait.
C'est vrai, donc, la philosophie était considérée, il faut le rappeler, comme étant la mère de toutes les sciences avant.
Bien sûr, c'est d'elle que sont nées toutes les sciences, parce qu'elle pose des questions auxquelles elle n'a pas des réponses, et il se constitue autour des noyaux de questions, si vous voulez, donc des disciplines qui viennent apporter justement des réponses. Voilà comment les sciences sont-elles nées progressivement. C'est ainsi qu'elle est la mère des sciences, parce qu'elle a généré, en tout cas la plupart des sciences, effectivement, de par les questions qu'elle soulève, qui sont restées sans réponse, effectivement. On peut rappeler, pour Karl Jaspers, il pense que ce qui caractérise la philosophie, c'est l'étonnement. n'est-ce pas, et que donc ce critère-là ne saurait être soustrait à sa définition. Et l'interrogation philosophique, si vous voulez, que le corollaire de l'autonomie commence avec l'enfance. C'est avec l'enfance que se posent les questions les plus importantes sur l'existence. Les enfants sont des grands philosophes, si vous savez les écouter et si vous leur donnez la parole. Parce qu'ils posent des questions qui gênent souvent les adultes, qui amènent les adultes même à leur mentir parce qu'ils sont embarrassés par les questions.
Qu'est-ce qui est dans la lune, des questions comme ça?
Des questions comme ça. Dieu au ciel, quelle est sa substance, je ne sais pas. Est-ce qu'il est assis sur une chaise? Bon, autant de questions, n'est-ce pas? Voilà. Ils posent les questions du pourquoi, qui sont justement des questions assez intéressantes. C'est pour ça que le philosophe juste reste toujours un grand enfant aux yeux des autres, parce qu'il reste attaché à ces questions-là, parce qu'il n'est pas très éloigné justement des enfants, notamment parce qu'il est apte à s'étonner. En fait, si vous n'êtes pas apte à vous étonner, franchement, vous ne pouvez pas philosopher. Parce que bon, ce qui compte en philosophie, c'est les questions qui sont plus importantes que les réponses. Le philosophe est philosophe parce qu'il voit les problèmes là où les autres ne les voient pas couramment. De sorte que c'est l'étonnement qui est un facteur assez essentiel. Bon, peut-être pour finir, parce qu'on ne peut pas finir avec les questions, Cheikh Anta Diop pense qu'une pensée, pour être philosophique, doit répondre à au moins deux critères. Elle doit être consciente d'elle-même, de sa propre existence en tant que pensée, premièrement, et elle doit, deuxièmement, avoir réalisé un niveau suffisant, par exemple, la séparation du mythe et du concept. Donc, voilà, par exemple, quelques-unes des questions qu'on peut évoquer.
Merci à vous, M. Lolia Abdoulimam, M. Hussein Salatou. La philosophie fait souvent l'objet de beaucoup de préjugés, et certains la jugent comme dépassée ou sans aucun intérêt. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement?
Merci beaucoup, Michel. Lawali l'a dit, la question fondamentale en philosophie, c'est le pourquoi, contrairement à la science où c'est le comment. Cela est tout à fait justifié peut-être, parce que le philosophe ne pense pas comme les autres. Les choses les plus simples, il a tendance à les compliquer. Mais est-ce que véritablement il les complique, ou bien c'est les autres qui ne perçoivent pas, qui ne vont pas au fond des choses? Parce que le plus souvent, nous nous intéressons aux effets des choses, non aux causes des choses. Et quand on dit pourquoi telle chose, ça semble être embêtant. Donc, effectivement, il y a énormément de préjugés qui entourent la philosophie, à telle enseigne que, bon, on se demande est-ce qu'elle est même utile, est-ce qu'il faut la faire, qu'est-ce que ça apporte véritablement de positif à la société, est-ce que ce n'est pas de la simple spéculation, etc., etc. Mais à y regarder de près, je pense qu'une discipline qui aujourd'hui a 26 siècles d'existence, malgré toutes les critiques qui sont faites contre la philosophie, elle a su résister. Elle a aujourd'hui 26 siècles d'existence. 5e siècle avant Jésus-Christ, nous sommes au 21e siècle. Et elle continue à être là, malgré toutes les critiques, parce que dans certains pays, je pense même en France, à un certain moment, un ministre a voulu supprimer la philosophie parce qu'elle dérange. Est-ce que, voyez, on pense que, bon, il n'est pas utile, etc. On va revenir dans les débats. Pourquoi cela? Est-ce que c'est vrai, il est utile, il n'est pas utile? Mais c'est vrai, elle est entourée de beaucoup de préjugés. Et un philosophe est quelqu'un qui semble être marginalisé. Heureusement que la tendance change aujourd'hui, parce que quand vous prenez l'université à ses débuts, dans toutes les universités du monde, en tout cas, au début, il y a moins de philosophes. Peut-être 5, 6 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Bon, aujourd'hui, heureusement que les salles sont pleines de philosophes. Et Dieu merci, la société commence à être, selon le vœu de Platon, à être gouvernée même par des philosophes. Je pense que donc, les préjugés sont en train de tomber et que les gens ont une autre perception de ce que c'est que la philosophie.
Vous avez fait le lien avec la religion, justement. Mais, M. Hussein Salatou, qu'est-ce qui oppose la philosophie à la science et à la religion? Et qu'est-ce qui fait leur point de convergence?
En réalité, la philosophie ne s'oppose pas à la religion. C'est véritablement ceux qui ne philosophent pas, ou bien qui ne sont pas intéressés à l'esprit philosophique, qui pensent que la philosophie s'oppose à la religion. Et regardez, là où il a dit tout de suite, la philosophie s'intéresse à tout. Et étant consciente d'elle-même qu'elle a cette suffisance, elle s'est autorisée à inventer un autre domaine qu'on appelle la métaphysique. La métaphysique, ce qui est au-dessus de la physique. C'est vrai, ce terme, on l'attribue généralement à Aristote, mais c'est Andronikos de Rhodes qui l'a créé, qui l'a inventé, en parlant des choses qui sont au-dessus de la physique, ta métaphysica. Et la métaphysique parle de quoi? Des choses qui ne sont pas du domaine du monde sensible. Et c'est vraiment l'idée de Dieu, l'idée de l'âme. Et je pense que ce sont les philosophes qui ont beaucoup inspiré d'abord le christianisme, notamment à travers Aristote, à travers ce qu'on appelle le premier moteur. Il dit que tout ce qui bouge, tout ce qui est là, est mu par autre chose. Cette autre chose est mu par une autre chose, ainsi, ainsi. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui met tout, mais qui n'est pas mis en mouvement. Mmh. Et ils appellent ça le premier moteur, l'être suprême, qui n'est rien d'autre que Dieu. Malheureusement, peut-être une mauvaise interprétation a fait en sorte que, parce qu'au niveau de la philosophie, c'est ce qui fait que les gens pensent même que c'est inutile, la contradiction des pensées, des doctrines, a fait en sorte que certains ont privilégié ceux qui critiquent la religion, ceux qui ont une autre perception de la religion, et ceux qui, et surtout que la philosophie cherche à expliquer la religion par la raison. Mmh. C'est ça le problème en réalité. Le philosophe estime que, par l'entendement, par la raison, grâce à la raison, nous pouvons comprendre ce qui est au-dessus de nous. Or, au niveau de la religion, ce qu'on privilégie, c'est la foi, la conviction intime, l'esprit de critique, pas l'esprit critique. On ne doit pas critiquer. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que bon, les gens expriment que la philosophie que compte véritablement.
Dans la religion, il faut accepter.
Il faut accepter tout ce qui est dit. Mm-hmm. Il n'y a pas de critique. Mais la base de la religion, c'est quoi? La base de la philosophie, c'est quoi? Le point de rencontre, c'est la raison. Mm-hmm. La religion et la philosophie ne sont pas faites pour les autres êtres. Elles sont faites pour l'homme. Mm-hmm. L'homme est doté de raison. Donc, cette critique est en train de faire, de se faire, c'est pas fondée. C'est vrai. Il y a des philosophes, comment dirais-je, athées, comme il y a des philosophes qui croient foncièrement à Dieu. Maintenant, libre à vous de choisir ce que vous voulez. C'est vrai, quand tu rentres dans la démonstration rationnelle, dans la rationalité, pour expliquer l'idée de Dieu, tu risques de blasphémer. Mais comme l'a dit Kant, l'idée de la croyance est une conviction intime. Ceux qui veulent croire peuvent démontrer ce qu'ils croient. Ceux qui ne veulent pas croire peuvent démontrer pourquoi ils ne croient pas. De la même façon que la science, on pense que la philosophie s'oppose à la science. Non, là où il a dit tout de suite, la philosophie a beaucoup stimulé la science. Elle a beaucoup stimulé la science. Parce que, je reviens un peu à Hegel qui dit que la philosophie, c'est l'oiseau de Minerve qui prend son envol au tomber de la nuit. C'est vrai, c'est quand toutes les autres sciences se sont constituées que la philosophie commence. Elle commence par quoi? Par la critique. Alors que la science pense posséder un savoir immuable, définitif, la philosophie vient lui montrer l'insuffisance, son insuffisance, et pousse la science à aller au-delà de ce qu'elle pensait être vrai. On nous a appris peut-être au collège, en quatrième, la plus petite particule qui se trouve dans la matière, c'est quoi? Vous posez cette question à n'importe quel élève,
l'atome.
Il va vous dire que c'est l'atome. Mais avec le développement des sciences et des techniques, sous la critique de la philosophie, on s'est rendu compte que l'atome, c'est plus même la plus grande particule de la matière, parce que dans l'atome, il y a autre chose, et dans ce sens, il y a autre chose. Donc, ce sont les critiques. Ce sont les critiques de la philosophie qui permettent à la science de se développer au point de vue pragmatique, en tant qu'utilité, mais au point de vue aussi moral. Parce que la science ne s'occupe pas de la matière. Si on laissait la science faire ce qu'elle veut, je pense que nous ne serons pas sur cette terre-là.
Merci à vous, M. Ousseine Salatou, M. Lolio Abdoulimam. C'est vrai, il a fait une présentation donc, schématique de la philosophie, où certains disent que c'est comme un arbre dont nous avons les racines qui représentent justement la métaphysique, le tronc, la physique, et les branches, les différentes sciences. Qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre à ce niveau?
Disons, la présentation que vous venez de faire de la philosophie, c'est juste la définition de Descartes. Voilà, de la philosophie. La philosophie, c'est comme un arbre, elle est comparable à un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, et les autres branches sont les différentes sciences. Ici, c'est juste pour, si vous voulez, expliquer un peu le caractère encyclopédique de la philosophie. La philosophie a tout pour objet, c'est-à-dire son objet d'étude, c'est le tout. Il étudie aussi bien la métaphysique, le philosophe est à l'aise pour parler de Dieu, autant qu'il est à l'aise pour parler des sciences, etc. Juste pour peut-être juste un peu amener, par rapport à tout ce que cela a amené d'édifiant, n'est-ce pas? Effectivement, malgré sa démarche rigoureuse, voire critique, il l'a dit, la philosophie est discréditée aujourd'hui. Des gens la considèrent, vous l'avez dit, comme dépassée, comme inutile. Bon, dépassée, notamment, par exemple, aujourd'hui, avec les sciences qui sont venues après et qui prennent en compte donc tous les aspects des phénomènes, on pense qu'elle n'a plus de place. Mais ceux qui le disent, c'est précisément des personnes qui ignorent toute la philosophie et de son lien avec la science. Non seulement elle a généré les sciences, mais elle est la condition. Aujourd'hui, je suis certain, vous fermez le département de philosophie à l'Université de Niamey, je vous assure que vous ouvrez la porte à la mort des sciences. Pourquoi? Parce que la philosophie a une branche qu'on appelle épistémologie, n'est-ce pas, qui étudie les sciences, plus particulièrement qui fait l'histoire des sciences, mais qui fait surtout la critique des sciences.
Qu'on enseigne même au lycée, on le verra.
Bien sûr, voilà. Donc, c'est cette épistémologie qui critique les sciences. En fait, qui amène les sciences à se maintenir dans l'objectivité. Parce que donc, les critiques qu'elle adresse aux sciences sont très pertinentes. Et donc, les sciences vont s'élever progressivement pour pouvoir répondre à ces critiques-là. C'est ce qui donc, leur permet de maintenir le cap vers l'universalité, vers l'objectivité. Mm-hmm. Donc, vous voyez bien que c'est extrêmement important. Les scientifiques le savent. Vraiment, et le lien est étroit entre philosophie et science, donc à partir de cela. Quant à l'inutilité, peut-être que je laisserai juste parler Descartes aussi, hein, parce qu'il s'est prononcé sur la question. Mm-hmm. Il a dit, la philosophie, c'est qui nous distingue des barbares et des sauvages. Mm-hmm. N'est-ce pas? Il dit encore, par exemple, une nation est d'autant plus civilisée et polie que les hommes, ils philosophent mieux. Mm-hmm. Ou encore, cette citation, je pense que tout ce qui a été initié à la philosophie se rappelle certainement, toujours de Descartes, n'est-ce pas, qui dit « C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher, jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. » Puisque là, vous avez un potentiel en vous, l'homme, ce qui le caractérise, je pense, de façon essentielle, c'est la conscience et la raison. Mm-hmm. Or, la philosophie ne vient pas apporter la raison. Descartes l'a dit, le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Tout le monde possède la raison, mais il ne suffit pas de posséder la raison pour pouvoir l'exercer judicieusement. Et justement, la pratique philosophique vient aider à cela et donner une méthode pour pouvoir affiner justement l'exercice de la raison. Voilà, en fait, cibler son objet propre ici. Vraiment, c'est comme si vous, je ne sais pas, vous perdez votre humanité parce que si vous n'exercez pas judicieusement votre raison, je ne vois pas la raison d'être humain, pratiquement. Donc, or, justement, la philosophie agit sur l'esprit, sur la conscience, sur la raison. Justement, et surtout permet son bon exercice. Mmh. Voilà, en fait, c'est tout. Là où se situe, si vous voulez, l'exercice de la philosophie, si je peux dire.
La philosophie peut-elle être aujourd'hui, M. Lolé Abdoulimam, considérée alors comme une science?
C'est une question, effectivement, c'est elle qui a généré toutes les sciences. Mmh. Du coup, elle est très proche. Mais en fait, le problème, c'est que pour s'appeler science, il faut répondre à des critères. Mmh. Il faut avoir un objet spécifique, par exemple, précis qu'on ne partage pas avec d'autres. Mmh. Ça, c'est un des critères. Toutes les sciences ont un objet précis. La psychologie étudie l'individu. La sociologie, c'est le groupe, c'est l'ensemble. Mm-hmm. N'est-ce pas? L'anthropologie va se pencher sur la culture du groupe, ainsi de suite. Or, et c'est ça le problème de la philosophie. La philosophie, elle n'a pas un objet spécifique. Son objet, c'est le tout. Mm-hmm. C'est là la difficulté d'être scientifique pour la philosophie ici. Donc, bon, il faut avoir un objet spécifique. Or, la philosophie n'en a pas. Disons, elle touche à tout. Je rappelais tout à l'heure son caractère encyclopédique, n'est-ce pas, comme le rappelait la définition tout à l'heure de Descartes, n'est-ce pas. Bon, il faut ensuite maintenant définir une méthode objective pour pouvoir atteindre son objet. Or, la philosophie a certainement une démarche, comme je l'ai dit, objective et critique, ainsi de suite. Voilà.
Monsieur Hossein Salato, vous avez à compléter.
Oui, pour compléter la Wallis, c'est vrai, quand vous prenez sens en tant que comme ce qui est moyen et fin, on peut considérer que la philosophie n'est pas une science, mais Aristote nous dit que c'est la science des premiers principes et des causes premières. Causes premières parce que les gens, tout de suite, je disais, ne s'intéressent pas aux causes premières. Nous intéressons à l'effet des choses. N'allons pas au fond des choses. Est-ce que voilà? En répondant à la question comment, le philosophe prend en compte aussi la question à la question pourquoi, le philosophe reprend la question du comment des scientifiques. Mais ce que j'aimerais ajouter, la notion d'utilité, c'est ça aussi l'intérêt de la philosophie, parce que la philosophie s'intéresse sur elle-même. Quand vous dites l'utilité de la philosophie, c'est quoi l'utilité? Une chose est utile, parce qu'elle est profitable, elle est avantageuse, elle vous amène de l'intérêt, etc. Mais la musique est-elle utile?
Selon vous, est-ce qu'elle est utile, la musique?
Je pose la question. La nourriture même est-elle utile? Tout de suite, on me répondra, le commun des mortels, pour lui, elle est utile parce que...
On ne peut pas vivre sans nourriture.
On ne peut pas vivre sans nourriture. Et si on ne mange pas, on va meurt. Mourir. Mm-hmm. Mais malheureusement, malgré qu'on mange, on meurt. Mm-hmm. Donc, il y a un véritable problème. Donc, la notion d'utilité, je pense qu'elle dépend de qu'est-ce que tu vises dans cette utilité-là. Pour certains, par exemple, le véhicule, un véhicule n'est pas utile. Il y a des gens qui s'opposent, par exemple, au progrès scientifique et technique. Mm-hmm. Parce qu'ils considèrent que... ces progrès sont en train d'aliéner, de déshumaniser les êtres humains. Et c'est vrai, aujourd'hui, les rapports sociaux, tout se base sur le matériel. Est-ce que véritablement l'argent est utile en tant que tel? Parce que malgré toute cette richesse que l'individu possède, ça ne l'empêche pas de tomber malade. Ça ne l'empêche pas d'avoir des problèmes sociaux. Ça ne l'empêche pas de mourir. Donc la notion d'utilité pose problème. C'est des préjugés qui sont entourent la philosophie. J'ai dit que l'homme est un être qui doit s'interroger. C'est un être qui doit se poser des questions. Parce que c'est parce que nous posons des questions, parce que nous interrogeons, que nous faisons toutes les autres sciences. Mm-hmm. Donc, c'est tout à fait normal qu'on dise que c'est la science de première pensée, mais de cause première, parce que, comme l'a dit la Wallis, c'est une science encyclopédique qui prend tout, et c'est grâce à la critique, avec un esprit critique qu'elle fait, que la philosophie permet aux autres matières de se développer.
Nous entamons à présent la deuxième partie de ce forum, partie dans laquelle nous nous intéresserons à l'intérêt que revêt justement cet enseignement de la philosophie de nos jours. D'abord, quels sont les objectifs assignés à l'enseignement de la philosophie dans les classes de première et quel est le contenu de ce programme, M. Lola Abdelhamam?
Oui, effectivement, je pense que le Niger peut se féliciter d'être un des rares pays en Afrique où la philosophie est enseignée en première. Sinon, traditionnellement, c'est toujours en terminale.
Oui, certains se posent d'ailleurs la question, pourquoi on ne l'enseigne pas au collège ou en classe de seconde?
Je pense bien que c'est normal. Même, vous voyez bien, même en France, disais-je tout à l'heure, même au lycée, il faut un terminale. Mm-hmm. Parce qu'il faut certainement une certaine maturité d'esprit. Mm-hmm. J'étais en train de lier la pratique de la philosophie à la raison. Mm-hmm. Du coup, il faut quand même avoir une certaine maturité pour pouvoir, si vous voulez, vous allonez donc à une telle étude naturellement. Et c'est pour cette raison qu'on attend, par exemple, en classe terminale. Mm-hmm. Voilà, bon. Au Niger, on a voulu faire les choses. On a rapproché ça en première. Je me rappelle, j'ai fait partie, par chance, du comité pour réfléchir sur le programme. On a même voulu l'amener en seconde. Bon, au Niger, c'est notre cas. On n'a pas assez de professeurs de philosophie pour couvrir en fait le besoin. C'est pour ça qu'elle n'a pas été... Cette requête-là n'a pas été prise en compte. Mm-hmm. Bon, effectivement... Pourquoi l'amener en première de la terminale où traditionnellement on l'enseigne? C'est que donc on voudrait amener les élèves, c'est-à-dire savoir interroger les faits, les pratiques, les opinions, voyez-vous, n'est-ce pas? Notamment par l'élaboration d'une réflexion philosophique. Ça c'est un, parce que la philosophie a cette particularité. Un cours de philo, si vous y entrez, si c'est réussi, vous ne devez plus être le même qui ressort que celui qui en est entré. Mm-hmm. Parce qu'elle doit pouvoir susciter en vous des questions. Ainsi de suite. Donc, on veut, c'est le premier objectif, amener les élèves à savoir interroger vraiment les faits, les opinions, leur savoir qu'ils ont toujours eu, etc. La philosophie permet cela. Deuxièmement, je pense, et c'était une bonne chose, le deuxième objectif, c'était d'amener à initier les élèves à la méthodologie philosophique. Puisque normalement, dès la première, on doit pouvoir les initier. On pensait que, bon, en terminale, il n'y avait pas assez de temps de dérouler l'ensemble des programmes, des notions pour pouvoir. Donc, c'était ça un peu l'objectif. Vous avez parlé du contenu du programme de première. Je crois bien avoir en vue. Je crois qu'il y a quatre grandes parties dans le programme de première. D'abord, le professeur est amené à parler de la spécificité de la philosophie. Il va dire d'abord aux élèves, puisque c'est une matière nouvelle pour eux. Donc, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Quel est son objet? Quelle est sa méthode? Ainsi de suite. Quelles sont ses démarches? Donc, c'est le premier élément, je pense, du programme. Deuxièmement, la deuxième partie, je crois bien, après la spécificité de la philosophie, la deuxième partie, c'est la philosophie grecque. Donc, puisque vous savez, la philosophie sonne grecque. Le premier grand philosophe était là-bas. Donc, on va s'originer, par exemple, sur Socrate, sur Platon, ainsi de suite. N'est-ce pas, pour voir donc, comment ils ont philosophé. Et après, toujours dans la troisième partie du programme de première au Niger, donc on parle du problème de la philosophie en Afrique et de son impact sur le développement du pays. Vous voyez, donc là, on pose le problème de la philosophie africaine. Donc, c'est le troisième aspect. Et enfin, le quatrième aspect, comme je le disais tantôt, on initie les élèves un peu à la méthodologie philosophique, notamment par la pratique de la dissertation.
C'est-à-dire comment traiter des sujets de philosophie.
Exactement. Donc, ça commence dès la première. Normalement, vers la fin d'année, c'est la quatrième partie du programme. Comme ça, donc, ils traitent un peu de... C'est bien... Ça, le contenu du programme, de la première, vous demandez, non?
C'est ça? Bien sûr, voilà. De la première. Okay, il faut justement préciser que vous enseignez beaucoup plus en classe de terminale pour les candidats donc, au bac. Oui, avez-vous ajouté quelque chose par rapport au programme pour la classe de première?
Mon ami, il nous encadre, ce sont nos encadreurs. Ils sont un peu déconnectés, effectivement. Mais moi, vraiment, ça fait longtemps que je n'enseigne pas en première, mais La première partie en première, c'est véritablement la définition de la philosophie. La seconde partie, c'est la spécificité de la philosophie par en rapport avec les autres, matières. La troisième partie, c'est effectivement l'importance de la philosophie dans le domaine économique et social. Et il faut noter que tout de suite, j'ai cité Hegel quand il disait que la philosophie, c'est l'oiseau de Minerve qui prend son envol au tomber de la nuit. Pourquoi attendre la première pour enseigner la philosophie? Parce qu'on estime que l'enfant doit avoir du préacquis, un ensemble de connaissances d'abord, qui formate, qui aiguise sa conscience, et arriver à une certaine maturité de critique et de recherche. C'est en ce sens-là, véritablement, qu'il peut commencer le questionnement. Même si c'est paradoxal, parce qu'il a dit tout à l'heure, au début, il dit que l'enfant, le premier philosophe, c'est le petit enfant. Donc pourquoi attendre, comment dirais-je, en première pour commencer à philosopher dans les pays en France, jusqu'en terminale, il faut attendre. Ils ont effectivement, la cellule pédagogique a fait une petite expérience en commençant la philosophie en seconde. C'était passionnant. Moi, j'ai enseigné pendant un mois et compte tenu du manque de professeurs, ça a été arrêté. Mais j'ai compris que les enfants étaient intéressés et c'est véritablement les premiers philosophes, c'était eux, les élèves de seconde. Il ne faut pas penser qu'ils n'ont pas cet esprit critique-là. L'interrogation, l'étonnement, le questionnement, ça relève au niveau des enfants. Donc, si vraiment je ne fais pas un manque de professeurs, je pense que ce n'est pas du tout gênant qu'on enseigne la philosophie à partir de la seconde. C'était serait une très bonne chose. Ça pouvait même permettre de finir le programme, parce qu'en première, vous n'avez pas le temps de finir tout ce qu'on a dit là et commencer l'aspect pratique, la dissertation et le commentaire. Et en terminale, vous n'avez pas le temps, parce qu'en terminale, c'est un peu différent. C'est des notions que vous étudiez. Il y a à peu près 21 chapitres ou 22 chapitres qui tournent sur tout. Le chapitre sur l'histoire, sur la conscience, sur la langage, sur la nature, l'histoire, etc. Bref, à peu près tout. J'ai dit toujours à mes élèves, moi je suis fier d'être lycéen. Un bon lycéen n'est pas à comparer à un élève qui a fait une école professionnelle. Je l'ai dit avec
fierté. Oui, c'est vrai que la particularité, il faut le dire, ceux qui ont eu le bac, c'est qu'ils ont fait la philosophie. Alors que si vous passez par une école professionnelle, vous n'avez pas justement la chance de faire cette philosophie. Et c'est une grande différence, on a l'impression, vous pensez.
Les élèves ne savent même pas ce que c'est que le lycée. Le lycée, c'est l'école qui a été créée par Aristote. Parce que l'école qu'il a créée est située à côté d'un temple, le temple d'Apollon lycéen. Et c'est une école, comme l'a dit, une encyclopédie qui enseigne toutes les matières. Bon, Aristote n'enseigne pas dans les classes, il enseigne dehors. C'est pour qu'on avait ses élèves des péripatos, les péripatéticiens, c'est-à-dire les promeneurs. Il enseigne dehors, mais il enseigne toutes les matières. J'ai dit, c'est une chance d'être au lycée. Un lycéen, un bon lycéen, si ce n'est pas maintenant avec les grèves, un bon lycéen n'est pas comparable. Et vous regardez, tous les grands syndicalistes, tous les grands politiciens, c'est des gens qui ont passé par le lycée.
Bien sûr.
C'est une réalité, il ne faut
ils
pas
ont
le mettre.
Beaucoup lu, et, ils ont lu les
et paradoxalement, malgré que, c'est vrai, c'est une chose, on dit que bon, les élèves n'aiment pas la philosophie parce qu'on ne donne pas de bonnes notes, on dit que les notes des professeurs varient en fonction du professeur, si tu n'es
si
pas dans la même pensée.
Avis, donc, est-ce mais, vrai tout cela?
Mais je pense que c'est un faux préjugé. Une belle chose. Nous avons l'art. J'ai dit aux élèves, est-ce que la beauté elle est absolue ou elle est relative? Ils disent, ah monsieur, la beauté est relative.
Je dis, non,
la beauté
est relative.
Je dis, mais attendez, quelle est la plus belle fille de cette classe? Et vous allez voir 80% de la classe des élèves. J'ai dit, donc la beauté n'est pas relative, elle est absolue. Non, je pense qu'un bon devoir, quel que soit le professeur, moi j'ai fait l'essai à ma première année d'enseignement au lycée Cassé. J'ai eu une copie d'une fille c'est ça aussi le paradoxe. Malgré que la philosophie est difficile, on dit qu'elle est consacrée pour les gens de la série A. Mais tu trouves des très bons philosophes. Je pense qu'Abdelawlid, qui est aujourd'hui directeur du service de Pâques, a fait la série D. Moi, j'ai soutenu avec quelqu'un, malheur, je ne sais pas, je l'ai perdu de vue, je ne sais pas s'il est vivant. Je souhaite qu'il soit là.
Mais il a continué à l'université.
Il a continué à l'université en étudiant la philosophie. Est-ce que et cette fille-là, elle a fait le bac D. Je voulais juste, j'ai noté que sa copie, je l'ai donnée 13. Je n'étais pas content de moi. J'ai donné sa note à un autre professeur, M. Barré, qui est à l'enseignement supérieur. Il lui a donné 14. J'ai effacé, j'ai repris la copie, j'ai donné ça à une autre enseignante, Mme Touré, qui est toujours à l'enseignement supérieur. Elle lui a donné 16. Je ne sais pas que...
Les candidats ont parfois raison sur vous quand ils disent
non.
Les notes.
Mais je pense qu'un 13, un 14 en philosophie, c'est une bonne chose.
Il faut donc un peu de chance aux candidats.
La note n'a pas varié de 3 à 16. Elle a varié de 13 à 16.
Voilà.
Donc je pense qu'on est dans le c'est une fourchette.
Mm-hmm.
Une bonne copie. Et quand nous corrigeons le bac, quand tu trouves une bonne copie, quand tu lis l'introduction, à l'unanimité, les gens te disent « Ah, elle mérite ça !» Donc, qui ne veut pas une bonne copie? C'est des histoires. C'est vraiment, les gens se refusent sur un certain nombre d'arguments pour justifier le fait qu'ils n'ont pas travaillé. Mais une bonne copie mérite une bonne copie. Je pense que l'enseignement de la philosophie doit être développé, mm-hmm. et vraiment dans les lycées, avant même l'université. Parce que j'ai rencontré souvent mes élèves. Même avant terre au trésor, j'ai rencontré un élève de monsieur, un financier, qui a fait mm-hmm. ça. Il dit, monsieur, wallahi. Ce que vous nous avez appris, on ne peut jamais oublier ça.
Bien sûr.
Surtout la morale.
Mm-hmm.
On ne peut jamais oublier ça. Les rapports entre les hommes, mm-hmm. l'humilité, la modestie. Il dit, oh là, monsieur, on ne peut jamais oublier ça.
Bien sûr.
Donc, moi, je me réjouis, je dis, je suis à l'aise, très à l'aise d'apprendre la philosophie. Si parmi mes enfants, quelqu'un peut le faire, ok, je l'encourage.
Je vous félicite. Merci donc à vous, monsieur Ousseini Salatou. Oui, monsieur Laoulé Abdoulimam. C'est vrai, certains se plaignent justement de leurs notes. En philosophie, ils disent que vous notez mal. Est-ce qu'on peut dire que globalement, en philosophie, on a des très mauvaises notes?
En fait, le problème de la subjectivité des notes en philosophie est mm-hmm. vraiment légendaire.
Mm-hmm.
Je pense que ce n'est pas propre au Niger même. Hein. Mm-hmm. Je pense un peu partout, etc. Mais nous, quand même, ici au Niger, on essaie quand même d'y faire face
mm-hmm.
Et d'y remédier véritablement. Bon, là, je parle en tant qu'encadreur pédagogique.
Mm-hmm.
Je sais que, par exemple, cette année, on a initié au sein de la région de Niamey
mm-hmm.
une formation pour passer en revue donc, les différents types d'exercices. C'est-à-dire dissertation et commentaire. Dissertation, il y a deux types, sujet, question, sujet, citation.
Mm-hmm.
Et puis donc le commentaire philosophique. Et croyez-moi, on était là une centaine de professeurs. N'est-ce pas? On a discuté, à la fin de la journée, on a fini tous par s'entendre sur l'essentiel.
Mm-hmm.
Ça, c'est important. Et on s'est fixé pour objectif l'année prochaine, absolument, de se revoir également pour pouvoir établir une grille de notation pour ça. Bon, soit dit en passant, ça, c'est, je parle de ce qui se fait maintenant. Mais moi, dans ma carrière, par exemple, je sais qu'à l'époque, on était encore aidé par la coopération française et on a eu l'occasion de réunir tous les enseignants de philosophie. Je suis mm-hmm. sûr que Salatou a assez, en tout cas, tous les anciens au lycée Mariama, tous les enseignants de philosophie du Niger,
mm-hmm.
y compris, je me rappelle, ceux de l'université de Niamey, justement pour se pencher sur cette thématique-là. Croyez-moi, bon, ça fait un brouhaha énorme. Quand vous réunissez des philosophes, ce n'est pas évident d'avoir le calme, la tranquillité.
Mm-hmm.
Alors, on a quand même fini par élaborer des critères. Et croyez-moi, on est parti, c'est-à-dire on a constitué des groupes libres. Et on est parti au niveau du service du bac pour avoir des copies réelles, mm-hmm. dont on a fait copie, évidemment, en coupant la partie des observations et des notes. On a distribué à plusieurs groupes, à tous les groupes, en réalité, les mêmes copies. Et on a dit sur les critères, à partir des critères qu'on a établis, d'aller noter les copies. Croyez-moi, c'était édifiant. L'écart de notes n'a jamais dépassé 2 points.
Mm-hmm.
Ce que vous pouvez retrouver même en sciences,
mm-hmm.
en mathématiques, en physique, etc.
Ouais, ouais.
Donc c'est parfaitement possible. En réalité,
comme
ça fait partie.
Comme ce que M. Ousseini Salatou a expliqué.
Vous avez évoqué.
D'un 13, on peut avoir la chance d'avoir 15.
Exactement.
Mais d'un 13, on ne peut mm-hmm. pas aller à 7, on ne peut pas aller à 8.
Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure les préjugés dont fait l'objet la philosophie. Ça, c'est mmh. un des préjugés.
Mmh.
On pense que non, la note dépend du professeur.
Mmh.
Si vous dites ce qu'il pense...
C'est faux, on a compris cela. Mais est-ce que globalement, en fait, le pourcentage de ceux qui arrivent à avoir la moyenne, donc qui s'en sortent en philosophie, ça peut atteindre combien?
Bon, ça, vous avez raison.
Souvent même au second groupe, on voit qu'il y a beaucoup qui reprennent philosophie, justement.
Je comprends bien. Bon, pas toujours. Sinon, pour ce qui est des pourcentages, ça, c'est mon domaine, mon travail. Je sais bien
uh-huh.
qu'il n'y a pas assez
de moyenne,
d'élèves qui ont la moyenne, au-dessus mm-hmm. de la moyenne, en tout cas, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Bon, mais là, comment comprendre ça? Effectivement, on est là-dessus. Je vais dire, il y a une série de facteurs qui entrent la ligne de compte, franchement. Mm-hmm. N'est-ce pas?
Il y a aussi, certains disent, le niveau de compréhension de la langue française, parce que pour traiter une épreuve de philosophie, il faut aussi avoir un bagage intellectuel.
Qui dit philosophie dit élévation mm-hmm. de la pensée. Au ouais. niveau du concept, tout à l'heure, chez Cantabus, il fallait qu'une pensée fasse la différence entre un mythe et un concept. Il mm-hmm. faut donc s'élever. Bon, chose qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Et commune, démarche qui n'est pas commune à tous les hommes, etc. Bon, mais quand même, il y a du progrès, on constate. Bon, en tout cas, ça fait partie des choses que nous suivons au niveau, par exemple, de notre activité.
Mm-hmm.
Et croyez-moi, on fait du progrès par rapport à ça.
Au-delà de ce que Léolé a dit, Michel, pose un problème très sérieux, un problème qui souligne qu'on ne réfléchit pas. C'est ça, une crise de la pensée. C'est ça le problème. C'est à cela que nous invite la philosophie. Mm-hmm. Il faut penser, il faut réfléchir. Et tous ceux qui auront fait une très bonne réflexion, une bonne question, un bon questionnement, mm-hmm. trouvent la moindre. Ça veut dire qu'on ne s'interroge pas. Et si on ne s'interroge pas, en tout cas, c'est tout le système qui tombe. Mm-hmm. Je pense que l'homme doit être quelqu'un d'être qui s'étonne, qui se questionne sur sa vie, sur ceux qui l'entourent. Mm-hmm. Si on ne le fait pas, donc il y a une crise de la pensée qui est là. Il ne faut pas voir seulement l'aspect philosophique. La philosophie nous invite à une réflexion, elle nous invite à une critique, à un étonnement, à une démarche, à une méthode. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la moine, s'il y a des crises de moine au niveau des élèves, ça veut dire qu'il y a une crise de réflexion. C'est ça que les gens doivent percevoir. Mm-hmm. Moi, j'ai dit que je ne serais pas à l'aise si des élèves dans ma classe n'ont pas de moine. Je ne sais pas. Je me remets en cause. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai dit que si quelqu'un peut avoir 14, 15, si quelqu'un a 2, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me serais assumé. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez? Donc, ce préjugé-là, je pense que bon, ce serait difficile. Peut-être même nous en sommes responsables, certains professeurs. Mm-hmm. Ils pensent que pour montrer aux élèves que la philosophie, c'est particulier, il faut donner des... Non, je pense que quand l'élève a une bonne copie, il faut lui donner la moine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas donner telle note en philosophie, c'est des histoires. Moi, j'ai eu à donner 17 de moine, 17 sur 20 en philosophie. Mm-hmm. Et aujourd'hui, cet élève-là, aujourd'hui, il travaille dans le système des Nations Unies.
Mm-hmm. Ça veut dire que vraiment,
donc si la personne mm-hmm. mérite sa note, si tu mérites 1, je te donne 1. Mm-hmm. Je ne te donne pas, je te remets ce qui te revient de droit. Parce que les élèves, le plus souvent, quand ils donnent des bonnes moines, ils disent « j'ai eu ». Quand ils ont des mauvaises moyens, ils disent « on m'a donné ». Parce que vous voyez, c'est ça la différence. Hein? Je dis donc, véritablement, il faut s'assumer. Et c'est à cela aussi que j'invite les philosophes, à travers notamment Jean-Paul Sartre, mm-hmm. la question de la responsabilité. Mm-hmm. Nous fuyons nos responsabilités. Nous sommes indulgents à l'égard de nous-mêmes. Quand nous avons pu accomplir une tâche, nous pensons que nous l'avons accomplie sous la base de notre propre effort. Quand nous n'en arrivons pas à l'accomplir, nous le mettons sous le dos des autres ou sous le dos de Dieu. Un élève, il passe à l'écrit avec mention. Son ami le rencontre, il lui demande, maintenant ça a marché. Hey, mon ami, laisse. Voilà, j'ai une carte. Si ça ne marche pas, il me dit que laisse. C'est les imbéciles de philo, là, il m'a donné un. Donc vous voyez, c'est une fuite de responsabilité. Il faut que nous nous assumions par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que j'ai dit combien parmi vous, lorsque vous avez eu le bac, vous vous êtes arrêté, vous avez fait 2 raccades devant tout le monde pour remercier Dieu. Mm-hmm. Non, la première réaction, c'est crier. Oui, je le connais. Mais lorsque vous échouez, vous rencontrez votre camarade lui-même, de manière hypocrite, il vous dit, comment, mon ami, tu as réussi? Tu dis, ah, ça n'a pas réussi. Je n'ai pas réussi. Il dit, ah, tu vois, c'est Dieu qui a dit que tu ne vas pas réussir cette année. Dès qu'il te dépasse, il dit, non, je savais qu'il n'allait pas réussir. Au moment où nous étudions là, lui, il était en train de jouer. Il faut que les gens aient le courage de s'assumer, de ne pas être très intelligents à l'égard d'eux-mêmes. Mm-hmm. Aucun professeur ne voudrait avoir des élèves dans sa classe, des élèves qui n'ont pas la moine.
Merci à vous, Monsieur Ousseini Salatou. Monsieur Loli Abdoulimam, un mot pour terminer par rapport au contenu du programme toujours en classe de terminale.
Bon, en classe de terminale, en fait, il y a 2 grandes parties, je crois, mm-hmm. pour le présenter. La partie des notions et puis la partie étude de l'œuvre. Maintenant, la partie la plus importante, je vais dire, qui prend plus de temps, pratiquement mm-hmm. toute l'année, c'est bien sûr la partie des notions, mm-hmm. qui elle-même se subdivise en 4 parties, n'est-ce pas? Il y a vraiment ce pouvoir un peu, le caractère encyclopédique vraiment de la philosophie, et surtout le fait qu'elle touche à tous les aspects de la culture humaine. Mm-hmm. Donc, la première partie, c'est sur le sujet. Elle amène à s'interroger sur soi-même. Mm-hmm. Qui est-ce qu'on est? Donc, par exemple, on étudie la conscience, les conscients. Je pense que, voilà, on étudie les passions. L'homme n'est pas seulement que conscience, il est aussi sentiment, subjectivité. Donc, les passions, on étudie autrui, on étudie l'existence, la mort, je crois, l'espace et le temps, et ainsi de suite. Mm-hmm. La deuxième partie, c'est sur la culture. Mm-hmm. Donc, comme dit le nom, par exemple, nature et culture, l'histoire, voilà, l'art, la religion, comme vous venez de le dire tantôt. Ainsi de suite. Et puis la troisième partie, c'est la partie un peu épistémologique, voire mm-hmm. scientifique, où on étudie par exemple les sciences, où on étudie la vérité, n'est-ce pas, le langage, et puis donc enfin la partie politique, n'est-ce pas,
la philosophie politique,
qui donne une formation essentielle de citoyenneté, vraiment. n'est-ce pas, à tout temps. Et je ne suis pas surpris quand ça l'a tout dit, tous les grands politiciens, tous les grands syndicalistes aujourd'hui sont passés par le lycée, c'est-à-dire par la philosophie. Mm-hmm. C'est normal parce que ça donne une formation de base initiale qui est indispensable, même pour la citoyenneté. Notamment, on étudie l'État, qu'est-ce que c'est que l'État, quelles sont ses formes, notamment la démocratie, ainsi de suite.
Alors, monsieur Loli Abdoulimam, peut-on aujourd'hui dire alors que la philosophie peut contribuer à la promotion d'une citoyenneté responsable et à l'ancrage de la démocratie à partir de ces différents contenus?
Bien sûr, à partir de ce qu'on vient de dire, mm-hmm. notamment en se basant sur la partie politique là, mm-hmm. n'est-ce pas? C'est la une véritable politique. Éducation à la citoyenneté. Mm-hmm. J'avais commencé à expliquer qu'on étudie par exemple l'État et ses formes, mais on étudie aussi le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Quelles mm-hmm. sont ses formes? Et ainsi de suite.
La démocratie.
Comment mener l'exercice du pouvoir, voyez-vous? Donc, on étudie également, par exemple, la violence, on étudie le droit, mm-hmm. Le devoir, ainsi
la
de suite.
La justice.
Donc, vous voyez, ça implique une véritable formation mm-hmm. à la citoyenneté. À mon avis, c'est un cours, on ne peut plus, indispensable ici pour pouvoir, donc, former
oui,
la citoyenneté.
Merci. Oui, il faut, nous allons terminer donc avec vous.
Et je voudrais ajouter qu'en réalité, la philosophie, le siècle de lumière, qui a parlé des droits de l'homme, qui a parlé de la nation de l'État, qui a permis aux gens de se responsabiliser, c'est le son des philosophes. Mm-hmm. Aujourd'hui, si on parle d'idéal démocratique, ce n'est rien d'autre que les philosophes à travers les siècles de lumière. Mm-hmm. La gestion de la cité en tant que telle a commencé depuis Athènes et a commencé avec les philosophes. Mm-hmm. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire n'est qu'une reprise de ce que nous avons. Et la partie du cours aujourd'hui, que moi je suis dans la dernière partie, je contiens la 5e cours, tout ça, 11 ans, la partie du cours aujourd'hui qui intéresse les élèves. Nous sommes tous devenus politiques, nous sommes de la philosophie politique, moi.
Et c'est
la
ça
notion de l'État. Il y a un qui me dit, quand on parlait du droit et du devoir, il me dit, mais monsieur, il regardait nos fois, on ne comprend rien de ce qui se passe, parce qu'on ne connaît pas nos droits. J'étais obligé de lire la Constitution en classe droit et devoir. Ils disent, mais on est foutu, on ne connaît rien de nos droits. Mm-hmm. Et moi, je pense que c'est une œuvre utile, qu'on puisse amener aux enfants à s'intéresser à leur vécu quotidien mm-hmm. à travers la Constitution. Ils savent qu'il y a constitution, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans.
Oui, c'est vrai. Jusqu'au lycée, on voit que les élèves, ils ne connaissent pas.
Il y a beaucoup qui ont pris
justement
la copie de la constitution pour aller photocopier. J'ai dit non, je vais vous amener des exemplaires et j'en ai amené. Donc, je pense que, comme Léon l'a dit, la question de la citoyenneté, elle est prise en charge par la philosophie à travers l'enseignement philosophique mm-hmm. que nous menons.
Pour terminer, en résumé, donc, Monsieur Hussein Salatou, quelle est aujourd'hui l'importance de l'enseignement de la philosophie aux jeunes scolaires, notamment aux lycéens et à la société de façon générale, en dehors des aspects que vous venez d'énumérer?
Je pense que je ne marginalise pas les élèves ou les étudiants de la société. Moi, je dis quelle est l'importance de la philosophie pour toute la société. Mmh. Et comme Léon l'a déjà dit, nous pensons que les sciences et les techniques ne sont pas les seuls à mesurer les problèmes de la société. Mm-hmm. Si ça, on était qu'aux sciences et aux techniques, notre société, ce serait une société déshumanisée. Mm-hmm. Et pense qu'il est nécessaire que la morale et la critique de la morale, je pense que l'esprit critique doit prévaloir pour faire comprendre aux gens que nous sommes des tout petits moyens de l'univers, que nous ne représentons absolument rien. Ce par quoi nous sommes, c'est vraiment l'usage de la raison. Et c'est ce qui privilégie la philosophie, l'usage de la raison dans tous les actes que nous faisons. Quand on étudie la leçon de la passion, on dit elle est mauvaise, elle est bonne. Mais en fin de compte, on finit par dire quoi? Car en réalité, la passion n'est ni mauvaise, ni elle est bonne. Elle dépend de l'utilisation que nous en faisons. Est-ce que vous voyez? Donc, les contradictions philosophiques dont on parle trouvent leur synthèse à travers les philosophes eux-mêmes. Quelqu'un te dit par exemple, philosopher c'est apprendre à mourir, Platon. Spinoza te dit que philosophie, c'est persévérer dans son être, négliger la mort. Les gens pensent que c'est deux positions différentes. Mais non, tous nous invitent à tenir compte que la mort existe, mais cela ne peut pas nous empêcher à vivre. Donc, je pense que l'esprit philosophique, c'est l'esprit critique, c'est l'esprit de rationalité, c'est l'esprit de prise de conscience, c'est l'esprit de la responsabilité, c'est l'esprit du développement.
Merci donc à vous, fidèles auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème l'utilité de la philosophie et les contenus de son enseignement au lycée. Nous étions en compagnie de M. Loli Abdoulimam. Il est inspecteur pédagogique de la philosophie
au titre de la région de Niamey. Il enseigne donc également cette matière au lycée. Notre deuxième invité, c'est M. Ousseini Salatou. Il est homme politique. Il enseigne donc également la philosophie au lycée. Nous disons merci à nos deux invités d'avoir fait le déplacement et d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs des 46 radios partenaires de Studio Kalangou, grâce auxquelles vous nous suivez. Au micro, c'était Michel Dégé pour la présentation. À la technique, nous avons Séni Saka. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.